De l'Italie au tableau familial avec Gabriella Zalapi.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Et si le récit familial ne parlait que de notre monde ? Et si nos histoires singulières n'étaient que le miroir déformant de notre famille humaine ? Évidemment, pour que ce miroir nous parle, il faut le sens aigu d'une observatrice telle que Gabriella Zalapi. De livre en livre, cette plasticienne d'origine anglaise et italienne livre des paysages intérieurs faits de prénoms. Willibald, Antonia, Ilaria. Des prénoms et des mots-clés. Enfance, désobéissance, oppression. Avec à l'arrivée un héritage familial aussi lourd symboliquement que peut l'être un tableau représentant le sacrifice d'Abraham. Diplômée de la Haute École d'Art et de Design de Genève, la Zalapi s'aventure régulièrement dans la cave familiale pour en ramener des archives personnelles qui finiront en photographie de l'âme, éditée aux éditions Zoé, et tout ça en pleine semaine de la francophonie. Bonjour Gabriella Zalapi.
Bonjour Yasmine Chouaki.
C'est quoi la force d'une archive pour vous, qu'elle soit photographique ou autre ?
C'est sa fragilité. Elle est à la fois la trace d'une vie, de visage, de regard, de personnalité. Et en même temps, elle est sur le point de disparaître. Et je trouve que là-dedans, il y a une grande force. Il y a une fragilité toute humaine, en fait. Il y a... Tout est quand même... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Tout est très fragile.
Surtout en ce moment, j'ai envie de rajouter. Mmh. En tout cas, on va partir sur les traces de ce mot, des archives. Et on est déjà d'ailleurs sur une archive musicale et sur quelques mesures d'un maître du bandoneon argentin. J'ai nommé Aníbal Troilo, avec l'accent. Alors, quelle est sa force à lui, selon vous ?
C'est sa poésie, sa mélancolie, son bandoneon.
Pas d'artifice.
Pas d'artifice, ouais. Voilà.
Pero yo me lo acuerdo así, con Giacomín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín, y que jugó siempre de jazz izquierdo al mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón.
Hey.
Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Comment voulez-vous que je me décrive? Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. C'est pas en me demandant qui êtes-vous que je répondrai. Ou ce qui me fait écrire que je vous répondrai. Hein? Vous savez ça? C'est ce que je fais, c'est pas ce que je suis.
Un petit peu de Madeleine sonore pour un sol majeur, ça vous réjouit et ça me réjouit aussi. Du coup, Gabriella Zalapi, un peu de Mère, un peu de Machine à écrire, Olivetti, bien sûr. Et un peu de Marguerite Duras. Je ne sais pas ce qu'elle représente d'ailleurs, Duras, pour vous.
Elle représente une femme qui a engendré un territoire de possibles dans l'écriture, qui a travaillé dans un espace bien singulier et qui ne peut que me réjouir.
Et c'est quoi cet espace ?
Dire les choses ailleurs que là où elles se passent dans les faits. Et j'adore sa voix, j'adore la voix de cette femme.
Alors moi j'ai adoré le fait qu'elle se froisse à la question de l'autoportrait, qui est une question impossible, qui est une fausse question, dit-elle. Et il se peut qu'en sol majeur adore les fausses questions. La vraie étant, est-ce que vous savez, Gabriella, ce que vous voulez faire dans la vie ? Merci Marguerite.
Je sais que j'ai envie d'explorer différents territoires créatifs, ça je le sais.
Donc vous savez du par désir. Exemple que vous peignez, que vous photographiez ?
Je photographie pas, je travaille à partir de photographies, oui.
Et vous savez que vous écrivez. Alors à partir de quoi ça peut démarrer ?
Ça démarre à partir d'une attirance. Et puis que cette attirance prenne la forme d'un jeu.
Celui qui peut rajouter de l'eau à ce moulin de la création, pour employer quelque chose de très large, c'est un certain Jonas Mekas dont vous m'avez parlé. Un Américain d'origine lituanienne, à la fois journaliste, conservateur, historien.
Réalisateur, poète.
Attendez, j'ai pas fini ma phrase.
Excusez-moi.
Et qui se considérait être le porte-voix d'un cinéma expérimental. Il a réalisé au moins 70 films, avec toujours le désir de capter chaque moment de sa vie. On va écouter sa voix, peut-être que vous allez nous la traduire.
I have never been able, really, to figure out where my life begins and where it ends. I have never been able to figure it all out. What's all about? What it all means? So when I began now to put all these rolls of film together, to string them together, the first idea was to keep them chronological. But then I gave up and I just began splicing them together by chance, the way that I found them on the shelf. Because I really don't know where any piece of my life really belongs.
Que nous dit Jonas Mekas dans votre En sol majeur, Gabriella Zalapi ?
Eh bien, il nous dit qu'il n'a jamais vraiment compris où sa vie commence et où elle se termine. Et d'abord, il voulait monter tout ce qu'il a enregistré avec sa caméra de façon chronologique pour finalement décider de ne prendre que l'ordre dans lequel étaient mises les choses sur l'étagère.
Il faut dire qu'il a popularisé ce qu'on appelait le journal filmé, c'est-à-dire que lui-même a filmé grâce au Super 8 sa vie, jour après jour. Est-ce qu'il a été formateur ou déclencheur de quelque chose pour vous artistiquement ?
Oui, c'est quelqu'un qui a été un vrai choc pour moi, à la fois esthétique mais aussi poétique. Et je me souviens très bien, la première fois que j'ai vu ses films, c'était au cinéma Spoutnik à Genève. Il y avait ce film dont le titre est « He stands in the desert, counting the seconds of his life ». Il était au milieu du désert, comptant les secondes de sa vie. Déjà, le titre est tout un programme. C'est un film de 7 heures, enfin un truc, une longueur démesurée. Alors, Mekas, pour moi, il correspond à cette fragilité dont on parlait tout à l'heure, en fait. Cette façon de filmer le quotidien très, très banal, la nature, tout, le chat, les plantes, le soleil, sa fille, en superposant une voix off, où il avait des très courtes phrases, très poétiques. Et sa façon de filmer m'a beaucoup parlé, d'un point de vue sensible, et c'est comme s'il m'avait donné l'autorisation d'être cette partie-là de moi-même, en fait.
Et vous diriez que vous-même, c'est pas avec une caméra, c'est parfois avec, je ne sais pas, des pinceaux, un appareil photo, si ça a été le cas, ou des mots aujourd'hui, que vous scriptez vous-même les interstices de votre propre vie ?
Enfin, c'est pas ma propre vie qui m'intéresse, c'est la vie des autres. Ou c'est les vies qui concentrent un tas de contradictions ou qui font quelque chose de ces contradictions et qui sont aussi bousculées par les codes sociaux, enfin qui d'une certaine manière s'émancipent de ces codes sociaux, qui sont acteurs.
Que diriez-vous d'un peu de rédemption ?
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ceci.
Quel est le mot de la langue française que vous aimez le plus ou le moins ?
J'aime beaucoup le mot déterritorialisation.
Ah, ah oui.
J'aime bien les choses qui sautent les frontières, les personnes. J'aime beaucoup le mouvement.
Vous devez aimer l'époque alors ? Elle vous donne du travail.
Oui, ça donne du travail. Voilà, comme vous dites, ça donne du travail.
On pourrait aussi s'arrêter sur le mot désobéissance.
Mm-hmm.
Quelle importance il a pour vous, ce mot ?
Il a une grande importance parce que je trouve qu'il contient beaucoup de vie. Pour moi, il promet de l'indépendance.
Et de quelle manière il traverse vos trois récits ? Hilaria, Antonia, Willibald.
Pour Antonia, cette femme, en allant revisiter toutes ces archives qu'elle découvre dans une malle dont elle hérite de sa grand-mère, c'est comme si elle redécouvrait sa vie. Et de se réapproprier sa vie va lui permettre de prolonger cet acte d'appropriation dans sa vie du moment, en décidant de quitter son mari. Et ça, par rapport aux normes de l'époque, c'était un grand acte de désobéissance. En 65-66, en Italie, le divorce n'existait pas. Et elle était très contrainte par ce corset dont elle parle tout le temps, par cette injonction « to be a perfect housewife ».
Petite femme d'intérieur impeccable.
Oui, voilà, elle désobéit à ça. Mm.
On va garder Willibald pour plus tard. Hilaria, qui vient de paraître aux éditions Zoé, comme les deux autres récits d'ailleurs, en quoi elle est désobéissante ?
Hilaria, c'est une enfant de 8 ans. Le livre se passe sur 2 ans. Donc c'est une enfant qui, au cours de ses 2 ans, va essayer de faire la conquête de la désobéissance pour créer son espace de liberté au sein d'une relation plutôt dysfonctionnelle avec son père qui l'a kidnappée. Les cabines téléphoniques sont des cages à la frontière entre 3 mondes. Quand il se met à parler, je vois danser dans cette petite boîte le monde de maman, de papa et celui de l'autoroute. Même si je n'entends pas ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'il joue au ping-pong. Ses mots volent, tapent les parois de verre. Cigarette, cigarette, cigarette. Il y a de la fumée partout. Papa ouvre la porte, la bloque de son pied droit, glisse des jetons dans la fente de l'appareil. Dans cette posture comique, son corps se transforme, son cou se raidit, enfle, rougit, ses mains tremblent. Il rit nerveusement. Il gesticule, pointe avec son index dans le vide. Ça va encore durer des heures et il va revenir de très mauvaise humeur. Avant de poser le combiné, j'entends papa crier « Ne raccroche pas !» Je respire une fois, 2 fois, puis c'est l'apnée. Je me fais aussi petite que possible. Je te passerai maman la prochaine fois.
Il tuo ricordo è una strada piena di luce, una cometa luminosa mi segue sempre ovunque vada.
Prix roman des étudiants France Culture 2025 pour Ilaria, avec l'accent, signé Gabriella Zalapi dans le fauteuil dans sol majeur sur RFI. C'est donc l'histoire d'une traversée dans l'Italie des années 80, l'époque des cabines téléphoniques, entre une enfant de 8 ans, donc Ilaria, et son père. Et c'est l'histoire vraie d'un enlèvement.
Je me suis inspirée de faits réels pour écrire cette histoire. Mais ce n'est pas du tout un texte autobiographique. Enfin, c'est des choses qui me sont arrivées, des années que j'ai en moi, dans ma vie. Mais ce n'est pas du tout un texte autobiographique. Mmh. J'ai vraiment travaillé avec, tissé beaucoup de fiction. C'était Chatwin qui disait « Une fiction, c'est 150 fois la vérité ». En fait, je me dis que la fiction, elle permet de concentrer, en tout cas, un ressenti affectif dont la durée est bien plus longue que celle en relation avec les événements.
Alors, je ne sais pas si c'est une construction d'auteur, mais du coup, cet enlèvement, il a lieu pour cause d'un immense chagrin d'amour. Ce père est en train de se faire quitter, divorcer de son épouse. Et lorsqu'il écoute Piero Ciampi, qui était un petit peu comme ça sous nos voix, il est en larmes. Pour Ilana, cet enfant de 8 ans, en fait, c'est ça que vous mettez en scène, c'est la disparition d'un monde et l'apparition d'un autre monde.
Oui, un monde qui se construit au fil de la route, dans le mouvement, sur l'autoroute principalement, avec des rencontres dans les bars.
Leur quotidien, c'est hôtel, autoroute, mm-hmm. comptoir de bistrot,
autogrill.
Cabine téléphonique, télégramme.
Oui, c'est ça. C'est ce temps qui est à la fois en mouvement et à la fois immobile dans cet habitacle de voiture où il y a une forme de huis clos. Et c'est un huis clos en mouvement.
C'est possible.
Oui, avec ce qui se passe en dehors à travers les vitres. Et ce qui se passe en dehors aussi à travers la radio qui amène des nouvelles.
L'assassinat du procureur de la République, Mario Amato, les Brigades Rouges. Vous pensez que ça éclaire quelque chose de cet enlèvement ?
Je pense que c'est une caisse de résonance avec ce qui se passe dans cette voiture, en fait. C'était aussi une façon de parler de désobéissance, mais à un niveau politique cette fois. Les brigades rouges ainsi que les NAR ne passe pas par la contestation. Enfin, c'est du terrorisme qui revendiquait un autre rapport au réel que celui qui existait, qui proposait d'autres façons de vivre une autre place, en fait.
Vous comprenez ce terrorisme ?
Ben, il m'a beaucoup questionnée, en fait, je dois dire. Ce qui m'a intéressée, c'est la narration. Qu'est-ce que ces personnes voulaient dire ? J'ai pas mal écouté des témoignages de Balzerani, d'autres Moretti, qui étaient des membres des Brigades Rouges, pour écouter leur version, comment eux abordent de la question et ont abordé les événements qui font qu'ils ont ensuite passé les deux tiers de leur vie en prison.
C'était une question.
Oui.
Et la définition peut-être du terroriste ou du terrorisme peut changer au fil du temps et de la lecture que l'on peut faire des événements qui s'y rattachent. C'est ce que vous semblez dire. Mais cette histoire d'Ilaria, c'est aussi l'histoire d'une initiation au réel et au monde des adultes pour cet enfant de 8 ans. Un adulte en particulier, ce père, qui boit beaucoup et qui ment beaucoup. Quel a été son plus gros mensonge et peut-être votre plus grande création d'auteur ?
Pour moi, le plus gros mensonge, c'est quand il lui dit « Oui, je te passerai ta mère, tu parleras à ta mère, en fait. » Sa façon de couper la communication avec sa mère montre à quel point peu lui importe cet enfant, même bien que ce soit sa fille. Et moi, je n'irai plus à l'école. Papa regarde le bout de sa cigarette, inspire une longue bouffée et la retient. Tu sais, Ilaria, il y a des choses plus importantes pour le moment. On a décidé avec maman que tu resteras encore un peu avec moi. La fumée sort de sa bouche par petits paquets. Tu comprends ? Je n'ose pas dire non. Je n'ose pas dire que je ne comprends pas, que je m'en fiche complètement des choses plus importantes. Je veux aller à l'école, jouer, voir mes copines, aller aux anniversaires, aux cours de gym. Je veux faire des flic-flacs, des roulades, m'entraîner à la poutre et faire comme Nadia Comaneci. Je veux rentrer. Puis, l'idée de quitter papa me glace. Je ne peux pas le laisser seul. Je le dévisage, m'assieds à côté de lui, pose ma tête sur son épaule et glisse ma main sous son coude. Papa me caresse la joue et la pince. Qu'est-ce qui te prend, ma petite princesse ?
Alors, Gabriella Zalapi, le sous-titre de ce récit, Ilaria, c'est bien la conquête de la désobéissance, justement. Alors, quelle forme elle prend, cette désobéissance, cet enfant qui n'ose pas dire non à ce père ?
Elle débute avec la conscience des mots qu'on laisse sous ce panneau d'affichage dans la gare, où elle réalise que inventer des mots, c'est possible que ça dérange, que ça déstabilise le monde, en tout cas là, en l'occurrence, dans cette gare, que ça déstabilise tous ces gens qui savent plus quel train prendre, où est leur train, et ça commence peut-être là. Et ensuite, elle s'enfuit de l'internat où elle est. Enfin, il y a différentes petites désobéissances comme ça pour arriver à la désobéissance qui est celle d'arrêter de parler et d'arrêter de manger, donc d'arrêter d'être en lien avec le monde et de ne pas pouvoir être punie. D'une certaine mesure, elle prend le pouvoir.
Ça montre aussi, et là, je ne sais pas si c'est vous, parce que c'est effectivement en partie vous, Ilaria, mais elle a une maturité affective dans la manière d'observer ce père qui fait une sortie de route, hein, si j'ose dire, dans sa responsabilité parentale. Ce texte, c'est ça qui est important, c'est que c'est le regard d'un enfant. Mm-hmm. Un enfant qui, semble-t-il, est toujours là, présent en vous.
Oui, oui. Mais
vous regardez l'enfant, à droite, à gauche, oui, comme si vous étiez encore dans la voiture enfermée avec papa pour savoir s'il va y avoir une réaction.
Non, mais en fait, je me dis, les enfants que nous avons été sont toujours là, en fait. le lieu initial, c'est cet espace.
Est-ce que il a fallu une photo, un objet pour déclencher ce récit d'Ilaria?
Non, il a fallu Rainer Maria Rilke.
Ah oui, c'est-à-dire
c'est-à-dire que je l'écoutais une nuit d'insomnie et que...
Vous l'écoutiez?
Oui, j'écoutais un podcast. C'était les lettres aux jeunes poètes et il donnait comme conseil aux jeunes poètes de n'écrire que des textes que seul lui pouvait écrire. Et c'est une question qui est restée en moi. Quel est le livre que je peux vraiment, légitimement faire?
Vous aimez bien donner comme titre à vos récits des prénoms?
Oui. Parce que je crois que ce qui me passionne, c'est l'être humain. Dans toutes ces textures, dans tous ces paradoxes, dans tous ces contextes. Et la possibilité d'être multiple, d'être une fois une personne. Et en fait, qu'une personne contient beaucoup, beaucoup de personnes, en fait. Et donc, si j'ai donné à chaque fois un titre de prénom, c'est parce que c'est un monde, en fait. C'est un prénom-monde. Mais
pour Ilaria, comment ce prénom est tombé, alors qu'il s'agissait quand même d'un épisode proche de ce que vous aviez vécu?
Mais j'ai choisi ce prénom parce que je le trouve très lumineux. Il rappelle l'hilarité, ce qui n'est pas présent dans ce texte, mais c'est un prénom tout en vertical, avec ses I et L, qui va chercher la lumière. C'est un prénom qui va vers le haut. C'était comment cet enfant reste debout, ne se couche pas. Ça, c'était très important pour moi.
Qui est Willibald, à la fois dans le récit et peut-être dans votre arbre généalogique, Gabriella Zalapi?
Mais Willibald, dans la vraie vie et dans... Enfin, dans le texte, c'est l'arrière-grand-père de Mara. Et dans la vraie vie, c'est aussi mon arrière-grand-père. C'était un collectionneur d'art. Il était aussi un industriel qui a dû quitter Vienne à l'Anschluss lorsque les nazis sont arrivés. Et qui a fui, donc, en emportant sous le bras une image, enfin, dans sa valise, une image qui était un tableau qui représentait le sacrifice d'Isaac ou le sacrifice d'Abraham, selon les dénominations. Et il l'emporte avec lui en exil.
Donc c'est tout juste, hein, oui.
Oui, jusqu'au Brésil. Et c'est un tableau avec lequel j'ai grandi et qui m'a fait me poser beaucoup de questions quand j'étais enfant, et notamment la passivité d'Isaac, telle qu'elle était représentée sur ce tableau-là, de Govert Flick. Et qui n'a rien à voir avec la version du Caravage, par exemple, où Isaac se rebelle, enfin, crie. On voit Isaac la bouche ouverte. Donc là, dans ce tableau, Isaac est extrêmement passif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup impressionnée. Et tout cet épisode de l'Ancien Testament m'a toujours beaucoup questionnée. Qu'est-ce que c'est que cet Abraham qui va égorger, enfin, qui va donner en sacrifice son fils? Quel type d'obéissance jusqu'où? À Inge et Paul, qui séjournent à Paris, Willibald écrit le 29 mars 1938 « Je m'occupe de tout, ne rentrez surtout pas. Hier, l'ambassade américaine a été prise d'assaut par 2000 personnes convaincues de pouvoir y obtenir un visa. C'était une rumeur. Certains affirment que l'annexion de l'Autriche n'est qu'une simple tempête pendant que d'autres se donnent la mort en sautant par la fenêtre. C'est le chaos. Willibald apprend par des amis que des Juifs ont été forcés à brouter l'herbe du Prater. D'autres lui reportent l'apparition à leur porte de concierges voisins d'inconnus qui viennent réclamer des radios, des boîtes de conserve, des meubles, des tableaux. Depuis que les Viennois ont vu Hitler, il semblerait qu'il leur ait transféré un pouvoir invisible dont ils se délectent. Sur les murs pullulent des portraits d'Hitler.
Voilà pour en sol majeur sur RFI, l'histoire de Willy Balt. Donc, comme vous le disiez, Gabriela Zalapi, ce collectionneur juif viennois. Histoire qui va se cristalliser autour de ce fameux tableau précieux qui l'emmène dans sa fuite, donc à cause de l'Anschluss. Tableau qu'Antonia, donc sa petite fille, se décide à vendre. Et c'est en fait l'absence de ce tableau, du mur familial, qui démarre le livre. Pourquoi est-ce que c'est cette absence qui déclenche le récit ?
Vous avez tout à fait raison, c'est une absence, mais pour moi c'était ce moment de séparation, en fait, définitif. Parce que le livre commence sur la vente aux enchères de ce tableau.
Il faut dire que Willy Balt, donc au moment de l'Anschluss, claque la porte de son appartement à Vienne, il laisse tout. La seule chose qu'il emporte,
oui,
c'est
oui,
ce tableau.
Oui, il ne prend qu'une seule image avec lui, alors qu'il était un collectionneur d'images, un grand amoureux d'images. Il ne prend que ce tableau et qu'en plus, il plie.
Et on ne plie pas un tableau.
On ne plie pas un tableau. Et il était un collectionneur, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc c'est au prix d'abîmer ce tableau qu'il l'emporte, qu'il va quand même parcourir... tous ces kilomètres, donc c'est que ce tableau avait une signification bien singulière pour lui. Et quand il est au Brésil, il habite dans une maison dont une des pièces est dédiée exclusivement à ce tableau.
Voilà. Tableau, de, je le rappelle, de Govert Flinck. Hein.
Oui, qui était un élève de Rembrandt.
Voilà. Tu perds ton temps avec ces lettres. Pourquoi suis-tu comme ça Willy Balt de pas à pas ? Ça, c'est Antonia qui dit ça. Je dois comprendre un truc. Lui répond Mara. C'est quoi ce truc qu'il faut comprendre ?
Mais pour l'instant, c'est toujours un truc. C'est la pièce manquante, c'est la voix manquante, c'est...
L'image manquante.
L'image manquante, ce qui tient en haleine.
C'est un peu Pérec. Tout à coup, ça me rappelle la disparition.
Ah oui.
De Pérec, qui fait disparaître la lettre E. En exergue de Willy Balt, Gabriela, vous avez pris soin de mettre quelque chose des confessions de saint Augustin, qui dit « Nous ne pourrions pas rechercher un souvenir perdu si l'oubli en était absolu. »
Ouais.
Vous avez deux heures. Hein.
Oui, je n'ai rien à ajouter.
Est-ce que le destin, cela dit, de Willy Balt, pour revenir un tout petit peu à cette page d'histoire familiale et inscrite dans la grande histoire, celle du nazisme, est-ce que son destin a pénalisé votre famille à vous, Gabriela Zalapi ?
Ah oui, je pense qu'elle a inauguré beaucoup de déracinements. Un travail permanent à reconstruire des repères et à s'approprier des langues, à faire... de ce sentiment d'être un étranger ou une étrangère un peu partout, de le faire sien et de négocier au quotidien avec, ce qu'il y a de magnifique hein, et de parfois très encombrant.
S'approprier des langues, justement, on est en pleine semaine de la francophonie. Est-ce que vous auriez pu écrire dans une autre langue que le français ? Car vous avez plein de langues dans le couffin.
Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est écrire dans plusieurs langues. Et c'est-à-dire de mélanger, pour moi, ça signifie mélanger des imaginaires, en fait.
Et donc, pourquoi plus le français que l'italien ou l'anglais ?
Parce que c'est la langue dans laquelle je me suis construite. Pour moi, l'italien est une langue extrêmement affective.
D'engueulade et de grand amour.
Oui, et aussi le lieu du trauma.
Du trauma parce que l'enlèvement ?
Oui. C'est une forme de terrain miné, mais non, enfin en tout cas qui a été miné un certain temps. Maintenant, je suis grande, les années sont passées, donc je me suis réappropriée cette langue aussi parce que j'ai plus eu le droit d'aller en Italie pendant un certain nombre d'années. Donc il y a aussi eu une rupture avec cette langue. Donc voilà, c'est une langue éminemment affective. L'anglais, c'est la langue de ma mère, c'est la langue du voyage aussi. Je sais pas, chaque langue a une couleur. Et donc, j'aimerais pouvoir écrire dans toutes ces langues.
Work in progress, alors?
Ah oui, oui. I'm working on it.
Échappé, ébattu, ébattu devant, derrière, deux entre chaque quatre et un, brisé. Deux, trois, quatre, chaque quatre, brisé.
On continue pour voir la suite.
Quel est votre premier port d'attache?
Premier port d'attache. Palerme.
Il a fallu cogiter quand même. Hein. C'est pas l'évidence.
C'est pas l'évidence, non. Non, j'ai hésité à répondre, je n'ai pas de port d'attache.
Page 35 de Willibald, vous avez cette phrase justement, Gabriela Zalapi. À y regarder de près, aucun ancêtre sur cette génération n'est né et mort au même endroit. Cosmopolitisme, oui. Déracinement, certainement. Diagnostic, exil. Famille décomposée, éclatement. Et à l'arrivée, donc... Une difficulté avec les territoires, d'autant que vous disiez il y a quelques minutes que vous avez été, je ne sais pas si on peut le formuler comme ça, mais interdite de territoire en Italie.
Oui, c'était pour des raisons juridiques. Enfin, suite justement à l'enlèvement, il y a eu des décisions juridiques qui faisaient que je n'avais plus le droit d'y mettre les pieds.
Alors l'idée de chez soi, c'est comment elle se met en place? Autour de quoi?
Autour de la maison, de la home, dans le sens anglais du terme.
C'est-à-dire?
C'est pas la maison, c'est le lieu où on se sent chez soi. I'm going back home, je rentre à la maison, on traduirait en français, mais en anglais, il y a ce lieu où on rentre chez soi, dans son cocon, où... Enfin, on peut s'en fabriquer un peu partout.
Alors, vous le savez, Gabriela, la politique et même la géopolitique s'invitent comme jamais dans notre salon. Et si on parle de la France, il semblerait qu'il y ait en ce moment une fracture au sein même de la communauté juive française. Les tribunes se suivent et ne se ressemblent pas dans le journal Le Monde. Il y a quelques jours, une première tribune qui était emmenée notamment par Annette Wiewiórka titrait « Nous, Français juifs, n'avons rencontré que le silence, le déni ou l'indifférence de la gauche extrême face à l'antisémitisme ». Et quelques jours après, en réponse, il y a eu une autre tribune emmenée notamment par Alice Cherki qui précisait que « l'antisémitisme largement ancré à l'extrême droite ne doit pas être utilisé pour discréditer toute critique du sionisme et empêcher la dénonciation des crimes » commis par le gouvernement israélien envers les Palestiniens. Comment vous vivez, comment vous arrivez à penser la chose, vous?
J'ai beaucoup de difficultés à appréhender ce qui se passe. C'est indigeste, mais on ne peut pas digérer. J'ai beaucoup de mal avec toute cette question israélo-palestinienne. J'ai beaucoup de difficultés avec l'idée que le droit soit foulé, qu'on s'assied dessus comme si de rien n'était.
Vous parlez...
Je pense à M. Netanyahou. à comment Trump discrédite la Cour pénale internationale. J'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe là. Enfin, il faudrait que je commence par dire que j'ai beaucoup de mal avec la prise d'otages, avec les morts, que ce soit les morts du côté israélien et les morts du côté palestinien. J'ai beaucoup de mal de voir que les narrations s'affrontent et que ça implique qu'il n'y ait aucune empathie qui soit générée par beaucoup de ces narrations. Enfin, le sujet est vaste, il est compliqué, oui. Il est épineux, c'est un territoire miné.
Oui. Est-ce que la peur est de nouveau là pour vous ?
Oui. De quelle peur parlez-vous ?
Je fais référence en fait à ces Français juifs qui expriment une peur aujourd'hui dans notre pays, en France, à cause de nombreux actes d'antisémitisme et qui pensent à peut-être faire leur alia. Mais j'entends aussi du côté israélien de nombreux Israéliens vouloir quitter le territoire d'Israël. Donc la peur apparemment est partout.
Oui, la peur...
Est-ce que je peux vous emmener, on n'avait pas prévu dans ce sens-là, mais c'est bien de ne pas prévoir parfois. Pour un sol majeur, est-ce que je peux vous emmener dans votre chambre intérieure, avec des musiques et des voix que vous traînez dans votre home ? Allons-y.
Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace.
This is a World Trade Center-bound E-train. The next stop is
'Everybody late. Art Blaquet, Mastroianni, le métro new-yorkais, il faut nous dire pourquoi toutes ces madeleines, Gabriella Zalapi.
Ouais. Art Blaquet et le métro new-yorkais, c'est en souvenir du temps que j'ai passé dans cette ville qui a été pour moi un moment très important dans ma vie. Parce que tout d'un coup, j'étais face à un monde que je ne connaissais pas, un monde vaste, plein de liberté, de singularité, de nationalité. C'est la première fois que je me suis sentie chez moi quelque part à New York.
Et parce qu'il y avait le monde entier.
Parce qu'il y avait le monde entier, parce qu'il y avait... Ouais. Bon, c'était il y a longtemps, je ne sais pas...
Oui, c'était bien avant Trump.
Oui, c'était bien avant Trump. Donc je sais aussi que j'ai un peu certainement idéalisé cette ville, mais c'était un moment de grande liberté. Et Art Blaquet... J'habitais à Harlem, je partageais en fait un appartement avec deux danseuses qui étaient amoureuses chacune de deux frères, qui étaient musiciens, qui étaient des jazzmen. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois le jazz dans ma vie, et Art Blaquet.
Made in New York, s'il vous plaît.
Made in New York. Mm-hmm.
Et Mastroianni, alors, cette voix, et cet italien.
Bon, Mastroianni, ouais. C'est un extrait tiré du film 8 et demi de... Federico Fellini, qui est, voilà, 8 et demi, le huitième film et demi, toute cette question de la créativité, de l'inspiration, et puis cette question que pose Mastroianni à Claudia Cardinale dans la voiture, quand il lui dit, être fidèle, est-ce que tu pourrais choisir une chose, une seule chose, et tout planter et rester fidèle à cette chose-là? Je trouve que c'est une très belle question.
Une très belle dernière question en sol majeur.
Voilà, peut-être.
Merci Gabriella Zalapi.
Merci à vous.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Gabriella Zalapi, des prénoms précieux, tous édités aux éditions Zoé, Antonia, Willibald, Ilaria. Et émission à réécouter en podcast sur Pure Radio. Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki, on vous retrouve dimanche prochain. Dans un instant, votre journal suivi de Mondial Sport.